Amen. Ben, je suppose que vous savez que dans notre culture, nous aimons nous plaindre souvent à l'autorité quelconque dans ce pays. Les syndicats en France, évidemment, c'est le sport national de faire la grève, on a vu ça depuis un certain temps. Mais les Belges aussi par rapport à leurs politiciens, les employés par rapport à leurs employeurs. Les parents d'école par rapport aux profs, les élèves de l'école par rapport à leurs parents, et ainsi de suite. Des plaintes, il y en a. Ça fait partie du jeu que si nous exerçons une responsabilité quelconque, nous devons faire face aux critiques et aux commentaires des autres. Pas de surprise donc de voir que des plaintes, il y en a également. Dans l'église, oui, même dans cette église, chers amis. Et en quelque sorte, c'est réconfortant de voir que l'apôtre Paul devait aussi faire face à des plaintes, des critiques à son sujet. Et c'est ça ce que nous voyons dans la lettre de Corinthiens. Donc, on pourrait dire, plus ça change, n'est-ce pas? C'est décevant lorsqu'on doit faire face à des critiques, mais c'est pas fort étonnant. En tant que chrétien, Jésus a été critiqué, Paul a été critiqué. Ceux qui cherchent à maintenir un ministère apostolique encore de nos jours seront également critiqués. Mais comment répondre aux critiques des uns et des autres? Avant d'aller plus loin, je pense que nous devons dire que c'est important de ne pas faire amalgame avec les critiques dont nous pouvons parfois faire face. Et celle dont Paul avait affaire dans cette lettre de Corinthiens. Parfois, les critiques à notre égard sont légitimes en ce qui nous concerne. Parfois, nous devons apprendre à réfléchir différemment sur l'un ou l'autre sujet dans notre vie d'église, dans notre vie. Parfois, nous prenons trop vite une suggestion de la part de quelqu'un comme une critique. Et nous réagissons parfois un peu trop vite pour nous défendre non pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce que Paul y fait, mais plutôt défendre notre propre fierté à nous, car nous sommes un peu menacés par ceux qui nous critiquent. Parfois, les critiques, il faut aussi dire, ne sont rien que des casse-pieds qui révèlent un petit test d'esprit de la part de la personne qui critique. Et qui révèle aussi une tendance à vouloir attirer l'attention sur soi. De telles personnes doivent plutôt apprendre à ne pas toujours proférer leur opinion sur tout et n'importe quoi. Ces personnes doivent se taire à un moment donné. Et ils doivent apprendre à se faire. Mais comment réagir avec quelles critiques? Les critiques à lesquelles Paul devait faire face de la part des Corinthiens pousser Paul à se défendre. Mais c'est important que nous comprenions que ce n'est pas par irritation personnelle qu'il réagit, mais par principe. Parce que mettre en doute le ministère apostolique de l'apôtre Paul, c'est de mettre en doute le message apostolique de Jésus-Christ que Paul, l'apôtre, a porté. Et c'est ça, je pense, que nous allons voir dans ce texte que nous avons lu. Car au premier abord, je pense que ce texte peut paraître un peu obscur à nos yeux. Est-ce que vous l'avez écouté en disant que « à quoi cela a fait à moi ?» Il s'agit d'une discussion assez personnelle entre Paul et des Corinthiens. Il leur parle du fait qu'il changeait ses plans pour leur rendre visite. Et on se dit, bah, ok, mais alors, qu'est-ce que ça a fait avec nous? Et pour ça, j'aimerais juste vous montrer les plans. On commence juste avec le tout premier plan pour qu'on se situe un peu dans le monde de Paul. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ici, c'est la Syrie. Ici, la Turquie. Ici, la Grèce. Et là où il y a ce petit cercle rouge, c'est là où il y a Corinthe, la ville de Corinthe. Et Paul, quand il écrivait, il était plus ou moins ici, c'est là où il y a Éphèse. Éphèse n'existe plus en tant que tel, ce sont des ruines. Mais maintenant, si on voit la carte suivante, c'est la même partie du monde, mais maintenant nous sommes transportés à l'époque de l'apôtre Paul, lorsqu'il faisait son deuxième voyage missionnaire. Et donc Corinthe est là, et Éphèse est là. Et il écrit la lettre aux Corinthiens que nous sommes en train de lire ici d'Éphèse à ces Corinthiens qui sont là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un projet à un moment donné. Il avait un projet après ce deuxième voyage. Voici ce qu'il a fait pour le deuxième voyage. Mais après ce voyage-là, il avait un projet de se rendre à Corinthe, de monter dans la Macédoine et de redescendre, revoir les Corinthiens avant de retrouver Jérusalem ici. Mais ce projet qu'il avait, donc de les voir deux fois au début de ce nouveau voyage, de monter puis redescendre et donc les voir une deuxième fois, ce projet-là, il a dû l'adapter, il a dû changer. Et donc, il semble que Paul est soucieux d'expliquer pourquoi il devait changer ses plans. C'est bon pour les plans pour le moment, merci Samuel. Paul a l'air de vouloir que les Corinthiens, au lieu de mettre en doute l'apôtre Paul, se glorifient en lui. Dans les versets 12, 13, 14, maintenant du chapitre 1, nous voyons cela, qu'il soit un sujet de gloire pour eux. J'espère que vous le reconnaîtrez, il dit jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie, que nous sommes votre gloire au jour de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il a besoin de l'encouragement de leur part à un point où il joue un peu la victime pour que cela attire l'attention sur lui? Peut-être que vous connaissez ce genre de personnes qui font ainsi, qui veulent provoquer un ressenti de culpabilité à son sujet pour que les Corinthiens disent « Oh non, Paul, on t'aime, ne t'inquiète pas ». Ce qui fait preuve des insécurités à ce point-là. Mais si ce n'est pas ça, alors quel est le rapport avec ce qu'il dit et nous aujourd'hui? Devons-nous conclure que l'application principale de ce texte, c'est qu'un pasteur doit en général tenir ses plans de voyage? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons dire ce matin, que lorsque je dis à quelqu'un je les rendrai visite mercredi, je dois à tout point maintenir cet engagement? C'est une bonne chose à faire. Je ne suis pas en train de dire que je ne dois pas maintenir mon engagement, mais je pense que nous pouvons pousser un peu plus loin pour voir la portée de ce que Paul dit ici. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas sa fierté personnelle. C'est son ministère en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Nous l'avons vu la fois dernière dans 2 Corinthiens, le ministère de Paul est sous attaque de la part de d'autres enseignants qui viennent d'arriver à la ville de Corinthe. Eux, ils avaient une façon d'exercer le ministère qui frappait ceux qui écoutaient leur message. Ils semblaient être des personnes puissante, impressionnante. Au chapitre 11 de cette lettre, verset 5, Paul appelle ces personnes, de manière ironique, des super-apôtres. Ceux qui parlaient avec une éloquence, ceux qui étaient bien rémunérés pour leur travail, ceux qui donc étaient impressionnants. Et c'est cette influence de ces super-apôtres qui pousse les Corinthiens a douté de Paul et de son ministère. Verset 10 du chapitre 10 nous donne un indice de ce qu'on disait de Paul. Ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais lorsqu'il est présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Mais Paul sait que s'écarter de lui, s'éloigner de lui en tant qu'apôtre, c'est de s'écarter, s'éloigner de Christ. Peut-être nous pouvons juste voir ensemble le chapitre 5, verset 2 de 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 2 qui nous dit, verset 12, pardon, qui nous dit ceci. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Donc, pour les Corinthiens, de mettre la fierté dans les autres, c'est de mettre la fierté non pas dans le cœur, mais dans les apparences. Mais c'est ça le nœud du problème. Ils sont attirés vers ce ministère impressionnant de part de ses apparences, mais un tel ministère s'éloigne du ministère de Jésus-Christ qui transforme le cœur. Le cœur. Et du coup, c'est dangereux, n'est-ce pas? Quand ces soi-disant apôtres n'attaquent pas Jésus de manière frontale, non, ils se disent croyants en Jésus-Christ, ils se disent apôtres de Jésus-Christ, ils croient dans l'œuvre de l'Esprit de Jésus-Christ. Mais au lieu d'attaquer Jésus, eux, ils attaquent Paul, l'apôtre Paul. Et c'est souvent comme cela. Encore aujourd'hui, nous rencontrons certaines personnes qui aiment mettre de la distance entre Jésus et l'apôtre Paul. Peut-être c'est même votre cas. Ici, vous dites, moi, j'aime Jésus, attiré par la personne de Jésus. Mais bon, l'apôtre Paul, c'est autre chose. On nous dit, c'est pas vrai, mais Jésus prêchait le royaume de Dieu. Mais Paul est fondateur de l'institution de l'Église mauvaise, etc. Okay? Jésus, humble, serviteur, Paul, arrogant, homophobe, misogyne dans sa façon de traiter les femmes, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est ça ce qu'on dit encore aujourd'hui, souvent, au sujet de l'apôtre Paul. Aimer Jésus, suivre Jésus, on a du plus facile avec ça, mais mettre un peu de distance entre Jésus et Paul, alors ça parfois on le fait. Et ce matin, nous devons réfléchir que de faire cela, c'est de nous éloigner de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul répond, parce qu'il doit maintenir l'engagement de ses Corinthiens à Jésus-Christ. Si vous voulez, il les met devant un défi. Il dit au chapitre 13, 5 et 6, on ne va pas voir ça maintenant, qu'il espère qu'ils vont réussir ce défi. Leur réaction par rapport à Paul va témoigner de là où ils en sont par rapport à Jésus. Donc c'est important que ce que nous pensons de l'apôtre Paul. Et c'est pour cette raison-là que Paul répond. Et nous allons essayer maintenant, de manière assez rapide, je pense, écouter les trois réponses que Paul il donne à ses critiques. Donc d'abord, il dit pourquoi Paul est digne de notre confiance, de leur confiance. Et d'abord, il dit « Pensez à la manière dont je vous ai adressé la parole, dont nous vous avons adressé la parole. » Ça, nous le voyons dans les versets 12 à 14. Paul affirme tout au début qu'il a une conscience tranquille qui tient le regard, qui prend en compte le regard des hommes sur lui, mais également le regard de Dieu. Il dit dans sa conscience, il sait que sa façon d'avoir procédé dans le ministère, c'était avec sincérité ou avec sainteté et pureté devant Dieu. Souvent, c'est traduit sainteté et sincérité. C'est comme ça qu'il a exercé son ministère. Donc, il y avait une simplicité dans le message que Paul a proclamé. Il y avait une transparence dans sa communication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avec Paul, il n'y avait pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre ce qu'ils ont dit. Verset 13, nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez. C'est le danger, je pense, d'être éloquent, de savoir parler, c'est de pouvoir manipuler nos paroles, nos discours, afin de cacher parfois ce que nous pensons réellement. Pour que ça soit dans ce contexte ou ce contexte-là, hein, très différent, on arrive à plaire aux deux. Paul n'était pas comme ça. Sa sincérité vient de Dieu. Il dit non pas d'une sagesse charnelle. Charnelle, c'est un vieux mot biblique, mais lié à notre chair, mais notre chair dans son opposition à Dieu. Tout ce qui correspond à un monde qui nie Dieu, qui rejette Dieu, c'est ce qui correspond à notre chair. Et il n'a pas agi selon les critères de la chair, mais ce qu'il avait comme source, c'était la grâce de Dieu. Il était reconnaissant pour toutes les bontés que Dieu lui a données librement en Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin ni envie de se comporter dans son ministère selon le monde. Il ne cherchait pas à gagner forcément les puissants et les importants avec ce beau discours érudit accompli. Non, motivé par la grâce, il cherchait à communiquer de manière claire à tous. Bien sûr, implicitement, il fait contraste ici entre son ministère et le ministère des faux apôtres à Corinthe. Contrairement à eux, il n'était pas dicté par les mœurs du monde, de la société actuelle, du politiquement correct. Un ministère aujourd'hui authentique qui cherche l'approbation du monde actuel ne parlera pas de ce qui offense le monde selon ses critères actuels. Remettre en question une identité LGBT, oser dire que l'islam ne mène pas à Dieu, refuser de dire que le plus grand danger pour notre humanité, c'est le changement climatique, de dire ces choses-là, c'est d'être en contre-courant avec le monde actuel et ses valeurs. C'est d'inviter de l'opprobre de la société. Dans ceux qui sont malins, évite cela. Mais Paul dit qu'il n'avait pas exercé son ministère de cette manière. Je n'étais pas motivé, il dit, par une telle approbation, mais plutôt par la grâce de Dieu en Christ. Donc, premièrement, pensez à la manière dont nous vous avons adressé la parole. Deuxièmement, pensez au message que nous vous avons communiqué à partir du verset 15. C'est ici où Paul entre un peu dans les détails de ses plans de leur rendre visite. Il voulait aller d'abord verset 15 vers eux pour qu'eux bénéficient d'une double grâce. Il voulait d'abord les voir une fois, monter et puis redescendre pour une deuxième fois. Il voulait commencer son passage en Macédoine chez eux et puis revenir chez eux à la fin de son tour dans la Macédoine. C'était bien réfléchi. Il dit, ce n'était pas fait à la légère. Non, verset 17, ces résolutions n'ont pas été celles, de nouveau, selon la chair. Sur un coup de tête, hein, peu importe si je change mes plans ou pas, ce n'est pas grave. Non, il n'a pas dit comme ça. Comme si on lui vacille de manière peu fiable entre un oui ou un non. Dans ma famille, je pense que je peux dire ceci, nous aimons taquiner mon beau-frère ou l'un de mes beaux-frères, car il aime être un supporter de foot de l'équipe qui est en train de gagner. Et donc, il change d'allégeance d'une année à une autre. Je trouve ça aberrant, moi qui ai fidèle pendant de longues années à mon équipe, Manchester United, qui néanmoins a eu quand même pas mal d'années de réussite. Mais pour le moment, ça ne va pas pour Manchester United. Dans le temps, mon beau-frère était supporter de Chelsea, et puis, quelques années plus tard, Manchester City, et là, maintenant, oui, vous imaginez, Liverpool, c'est tout d'un coup son équipe. Mais c'est quoi ça? Changer comme ça. Je regardais le match de Liverpool, Manchester United, il y a 15 jours avec un autre ami, et il avait invité un troisième ami qui, lui, était censé être supporter de Manchester United, mais depuis les 5 dernières années où United commence à jouer pas bien, apparemment, l'enthousiasme de ce troisième ami d'être supporter de Manchester United a aussi baissé. Mais c'est pas fiable, ça. C'est pas un vrai supporter. Faut maintenir votre équipe. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi. Mais voici un peu l'accusation contre Paul. Il est venu, et puis il a décidé de changer Bon, il change d'avis trop vite, n'est-ce pas? Il joue un peu avec vos émotions, d'ailleurs. On croyait qu'il vous aimait. Ben, il n'est pas stable, celui-là. Il suit un peu la direction du vent. Vous pouvez vraiment lui faire confiance? Alors, comment est-ce qu'il répond à cela? Ben, de manière étonnante, Paul ne dit pas, mes amis, je suis un homme qui tient parole. Mais en fait, il fait référence à sa fiabilité sur une échelle plus importante, plus grande. Et cette échelle, c'est le message qu'il a proclamé. Qu'avait-il proclamé, il dit au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Non, la parole prêchait Christ. Et le message de Christ n'est pas un message qui sème le doute, qui est à la fois oui et à la fois non. En lui, nous lisons, il n'y a que oui. Pourquoi verset 20? Il est l'accomplissement, Jésus-Christ, de toutes les promesses de Dieu. Paul, apôtre authentique qu'il était, proclamait Christ comme étant le centre de la révélation de Dieu. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nous mène à Jésus-Christ. Donc, c'est pas juste que Jésus est un personnage ici biblique parmi d'autres personnages bibliques, mais c'est que tous ces autres personnages bibliques nous mènent à Jésus-Christ, le crescendo de toute la Bible. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu depuis la création jusqu'à son retour? Nous voyons toutes les promesses de Dieu accomplies en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas encore cela, chers amis, c'est ça ce que vous devez retenir de ce message. Pour commencer dans la foi chrétienne, on doit voir, contempler la grandeur, l'importance de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu pour un peuple qui lui appartient, accomplies en Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ par la foi. Les promesses de Dieu pour un royaume éternel, la promesse de Dieu pour sa présence parmi les hommes, pour une terre sur laquelle il régnera, pour une loi royale par laquelle il gouvernera, les promesses pour une alliance éternel qui durera pour toujours, un nouveau cosmos dans lequel il n'y aura plus de larmes, plus de plaies, plus de malédictions. Toutes ces promesses trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est pourquoi verset 20, l'Amen prononcé par Paul à travers l'œuvre de Christ et pour la gloire de Dieu. Loin de lui d'être quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention sur lui. Non, il mettait en avant le Christ. Et cette proclamation de Jésus a eu pour effet que pour Paul et pour les Corinthiens, ils ont bénéficié de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il continue, cela affirme et Paul et les Corinthiens par le même Évangile dans son ministère. Le mot pour affirmer, c'est un mot technique pour une garantie. C'est comme un ticket de magasin. Ici, j'ai un ticket Décathlon, fait juste il y a quelques jours. Alors, si je suis pas content avec le nouveau basket que nous avons acheté pour la famille, je peux me rendre à Décathlon avec le ticket. C'est la preuve, c'est la garantie que ces choses m'appartiennent. Si j'ai pas ça, je peux pas changer. Okay? Donc, Paul, Dieu affirme notre ministère, garantit que le ministère que nous exerçons est authentique. Donc, pour les Corinthiens, de douter de Paul, de son ministère, c'est douter de leur propre affirmation de la part de Dieu. Car pour tous les deux, Paul et les Corinthiens, cela vient leur affirmation, leur garantie en Christ. Car en Christ, verset 21 continue, Dieu nous a oints C'est le même mot utilisé là pour le Christ, loin de Dieu. Le Messie, il aurait pu, nous aurions pu traduire, ici, verset 21, qu'il nous a, au lieu de dire « loin », il nous a Christé, si vous voulez. Pour, nous sommes loin pour être équipés pour le service de Jésus-Christ, pour la mission de faire des disciples de toutes les nations. Dieu nous a aussi marqué d'un sceau. Un sceau, c'est un terme commercial de l'époque qui désignait que ce qu'on vendait appartenait à moi, le propriétaire de ce que je voulais vendre. D'avoir le sceau de X là-dessus, cela signifiait que cela appartenait à X. Ce sceau, nous dit l'apôtre Paul, est opéré par l'Esprit de Dieu. Nous sommes à lui. Et voyez-vous, Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts, si vous voulez, c'est comme un acompte que nous payons lors d'un achat d'une nouvelle maison. Nous devons payer l'acompte. L'acompte, c'est la garantie que la suite viendra. Dieu en Christ nous donne son esprit, garantie de tout ce que nous aurons lors du jour de Christ, de son retour. Et donc, Paul rappelle aux Corinthiens que ces choses sont fiables, certaines. Où se trouvent ces arts, cet acompte, verset 22? Dans nos cœurs, il dit. L'œuvre effectuée par le ministère de l'apôtre Paul ne joue pas au niveau des apparences. Non. Les choses éphémères, c'est pas ça le ministère de l'apôtre Paul. Non, l'évangile de Christ, l'évangile authentique, effectue des changements au niveau du cœur. Paul ne prenait pas dans ses décisions selon la chair. Pensez, il dit, au message que nous vous avons communiqué, un message conséquent, certain, qui donne suite au changement réel dans nos vies. Donc dire que nous, les messagers, les apôtres, sont légers, c'est de dire que le Dieu que nous avons proclamé est également léger. Et manifestement, cela n'est pas le cas. Pensez à cela, il dit, et revenez à votre bon sens nous concernant. Arrêtez d'être attiré par ce ministère qui impressionne. Revenez à quelque chose de plus stable, de plus fiable. Pensez donc au message que nous vous avons communiqué. Et dernier argument, c'est penser à la magnanimité dont nous avons fait preuve. Alors c'est vrai, je devais choisir un peu un mot peu utilisé aujourd'hui, donc magnanimité. Parce que j'ai voulu retenir les trois M. Peut-être que vous n'avez pas suivi ça. La manière, le message et maintenant la magnanimité. Mais si pour vous, magnanimité, c'est totalement inconnu, alors vous pouvez simplement remplacer ça avec bonté. C'est la même chose, la bonté. Et c'est ça ce que Paul plaide ici. J'ai agi avec bonté, magnanimité envers vous. Car l'ironie, c'est que les changements de plan qu'il devait effectuer, au lieu de faire preuve de légèreté à son sujet, au contraire, fait preuve de sa bonté. Car ce qui s'est passé, Paul explique, à partir du verset 23 du chapitre 1, c'est qu'après avoir examiné son désir de les rendre visite deux fois, plusieurs choses avaient eu lieu. Il a appris, nous le savons, de d'autres écrits du Nouveau Testament, de Timothée, que certaines choses, depuis sa lettre à Corinthiens, n'ont pas été réglées. Et donc, au lieu de faire ce que Paul avait recommandé dans 1 Corinthiens, les choses se sont empirées. Et donc, du coup, en urgence, peut-être juste rapidement, on voit la carte une nouvelle fois, si tu veux bien, Samuel. Voilà, rapidement, au lieu de planifier ce voyage où il commence là, il monte là, il redescend là, il entend de la part de Timothée que les choses vont mal ici à Corinthe. Et donc, il prévoit un autre voyage direct, boum, comme ça, et il revient comme ça. Donc, il n'a pas fait les deux visites comme prévu, parce qu'il a fait cette visite après avoir écrit 1 Corinthiens. Mais cette visite a été difficile. Alors, une fois qu'il rentre ici à Éphèse, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une autre lettre que nous n'avons pas, okay? Une autre lettre qui est décrite comme étant une lettre difficile aussi. Difficile, non pas parce que Paul lui-même est difficile, c'est OK pour le plan, merci à Samuel. Mais difficile parce que, par amour pour ces Corinthiens, il devait leur dire certaines choses qui demandaient de la repentance. Il fallait changer certains comportements. Ils avaient besoin d'apprendre par un mot un peu plus dur ce qu'il fallait changer. Et il parle maintenant de cette lettre au chapitre 3, chapitre 2, verset 3. Il dit, j'ai écrit, il fait référence à cette lettre difficile, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, une fois qu'il rend visite une nouvelle fois à son arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. S'il écrivait une telle lettre, chapitre 2, verset 4, c'était dans une grande affliction, le cœur angoissé, beaucoup de larmes que je vous ai écrites. Son objectif, ce n'était pas qu'il soit attristé, mais qu'il connaissait l'amour de Paul pour eux. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous demander si vous n'avez jamais essayé vous-même de dire quelque chose de difficile à un ami proche. Si vous avez dû faire ça à un moment donné, vous allez savoir que ce n'est pas facile de faire ça. C'est délicat parce que nous sommes soucieux pour la relation avec cette personne. Comment est-ce que la personne va réagir? Mais notre amour pour la personne nous pousse parfois à dire des choses importantes, de ne rien dire à un ami lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas, hein, c'est de faire preuve d'indifférence envers cette personne et non pas d'amour. Évidemment, il faut faire distinction de nouveau entre ce qui est important et ce qui est juste petit. Critiquer toujours quelqu'un pour une toute petite chose, c'est fatigant et c'est inutile. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose d'important, alors à ce moment-là, l'amour demande que nous aidons de telles personnes. Et oui, cela court le danger de blesser, même qui nous sommes proches. Proverbe 27, verset 6 nous dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Le danger en blessant quelqu'un, c'est que l'ami ne verrait pas des choses de cette manière-là. Ils vont réagir mal. Ils vont en tout cas prendre un bon petit temps pour assimiler les propos de l'autre. C'est normal. Et c'est pour cette raison, verset 1 du chapitre 2, que Paul dit qu'il a résolu en lui-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Chapitre 1, verset 23, il réclame Dieu comme témoin sur son âme. À ce point-là, il veut qu'il comprenne que sa motivation était bonne d'avoir reporté la visite. C'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Il agissait, voyez-vous, par bonté, magnanimité envers les Corinthiens. Sa motivation dans la discipline n'était pas pour dominer sur eux, mais de contribuer à la joie pour qu'ils soient fermes dans la foi. Et d'ailleurs, il écrit maintenant cette nouvelle lettre de Corinthiens, parce que nous le savons de par le chapitre 7, qu'il a reçu des nouvelles de Tite qui rend des visites aux Corinthiens, que cette lettre difficile, déjà écrite, a été plus ou moins bien reçue de la part des Corinthiens. Loin donc de faire preuve d'un esprit de légèreté en ce qui concerne les Corinthiens, Paul agit par magnanimité. Par sa lettre, en osant soulever les choses importantes, par la décision de reporter sa visite planifiée, pour lui donner le temps de mettre certaines choses en ordre, pour bien réagir. Alors, qu'avons-nous vu ensemble? Paul est-il digne de notre confiance? Pensez à la manière dont il nous avait adressé la parole, au message qu'il nous a communiqué et à la magnanimité dont il nous a fait preuve. Bien sûr, il est digne de confiance. de par la manière il avait communiqué le message, de par le message de Christ qu'il avait communiqué, de par la bonté dont il a fait preuve. Et c'est important, chers amis, en terminant, pour vous, ce matin, de vous aligner également à l'apôtre Paul, au message de l'apôtre Paul, au ministère de l'apôtre Paul, centré sur Christ, transparente, qui ne se concentre pas sur des apparences, ce qui impressionne, mais qui tourne autour de l'œuvre de Christ effectuée sur le cœur, qui a le courage de nous appeler, oui, à la repentance, là où c'est nécessaire. Ne soyons pas donc aveuglés par les super-apôtres de nos jours, qui fonctionnent selon les critères de ce monde. Au jour du Seigneur Jésus, c'est le travail effectué sur le cœur par le Christ qui compte. Et j'aimerais vous demander de prier pour ce genre de ministère dans cette Église, les uns envers les autres, dans ce que nous nous enseignons. Comment est-ce que nous nous encourageons les uns les autres? Et j'aimerais aussi vous demander d'encourager ce genre de ministère de par vos échanges les uns avec les autres. Prions ensemble. Après réflexion, Seigneur, nous voyons à quel point c'est dur d'entendre ces critiques de la part des Corinthiens au sujet de l'apôtre Paul, en voyant tout ce que Paul a pu effectuer pour eux par le ministère apostolique que toi tu lui as confié. Te louons, Seigneur, que grâce à ce ministère-là, nous bénéficions de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'affirmation de l'Esprit. Nous sommes oints par l'Esprit. Nous avons été marqués par le sceau de l'Esprit. Et nous avons dans nos cœurs les arts de l'Esprit, l'accorde de l'Esprit. Et nous voulons, en tant qu'assemblée, te demander de nous aider donc à cheminer aussi en tant qu'Église, pour être reconnaissant envers ce message apostolique qui nous a été transmis, que nous trouvons encore dans la Bible, dans nous d'être ceux qui sont centrés autour de ce message-là. Et donne-nous, Seigneur, d'avancer, d'encourager d'autres à bénéficier du ministère de Jésus-Christ. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.